La quatrième édition de la quinzaine citoyenne vous est proposée par les membres du collectif Tous citoyens, tous concernés, la MJC, le Centre social Agora, le Collège Georges Brassens, l'association Image, la médiathèque Boris Vian, le Conservatoire de musique, le PRE, le Service politique de la ville, le CCAS, le Centre Coalia, le Cinéma Le Palace et la Radio Alternative FM.
C'est au quotidien que nous agissons pour que chacun puisse s'ouvrir sur le monde et ainsi jouer un rôle essentiel dans la cité. Cette quinzaine est un temps fort dans l'année qui va permettre de questionner des valeurs fondamentales telles que la démocratie, la laïcité, l'ouverture à la diversité et le vivre ensemble. Notre démarche s'inscrit dans la volonté de créer une dynamique réflexive, formative et collective pour faire vivre le débat citoyen, informer et favoriser les échanges d'idées. Ce processus, il se nomme l'éducation populaire, fondement des maisons des jeunes et de la culture. Faire prendre conscience de la place que l'on occupe dans la société et pouvoir expérimenter sa capacité à agir individuellement et collectivement.
Et nous sommes déterminés à poursuivre notre projet malgré le contexte délétère qui nous impose des restrictions.
La quinzaine débute ce soir pour la troisième édition du concours d'éloquence. Nous allons écouter, admirer et encourager les candidates et les candidats sélectionnés pour cette finale. Ils ont tous un message à transmettre et à faire entendre et sont portés par des convictions qui vont nous faire partager. Les sujets abordés sont parfois drôles et toujours percutants. En voici quelques-uns auxquels les candidats et vous-même auront échappé. Liberté d'expression, mythe ou réalité?
Pouvoir d'agir, esprit critique à limiter ou à encourager?
Indépendance d'action, ressources ou danger?
Association, à affaiblir ou à soutenir?
Le principal moteur de cette soirée est bien la puissance des mots, de la parole, de la pensée, des idées, afin d'éveiller la curiosité et la réflexion.
Ce soir, nous célébrons aussi un principe qui nous est cher, qui vous est cher, celui de la liberté d'expression. Cette liberté est à protéger et à défendre, puisqu'elle peut être menacée. Et souvenons-nous aussi de Samuel Paty ce soir, puisqu'il y a un an, il était assassiné sauvagement parce qu'il formait au sens critique. Que cette soirée soit le rendez-vous de l'expression, de l'éloquence à la parole citoyenne.
Mesdames, Messieurs, nous saluons tous les artistes, les musiciens, les oratrices, les orateurs, les techniciennes, les techniciens, les organisatrices, les organisateurs, trop souvent dans l'ombre, et vous, public, pour faire œuvre commune et faire de cette soirée éloquente, pleine de surprises, une vraie réussite. Alors à vos mots, pour nous convaincre,
nous émouvoir,
nous surprendre,
nous marquer,
et donc à nous, à vous, d'accueillir ces paroles singulières avec curiosité
et bienveillance.
Merci. Bonsoir, messieurs, dames. Moi, c'est Naïla. Et ce soir, je vais vous parler des animaux. Et des hommes aussi. Des deux, en fait. Et ma question, c'est, est-ce que l'homme est un animal comme les autres? Moi, je dis oui et non à la fois. Car l'homme ne l'est pas physiquement. Les animaux marchent à quatre pattes, les bébés aussi, mais c'est pas le sujet. Bon, je disais, l'homme, lui, marche sur ses deux pieds, même si, à l'école, on apprend que nous descendons des singes. Plus précisément, des homo sapiens. Mais je vous rassure, c'est des mythes. Lucie n'est pas mon arrière-grand-mère. Ensuite, d'autres personnes disent que les animaux n'ont pas d'émotion, mais moi je dis que c'est faux. Est-ce qu'une personne ici est un animal de compagnie dans le public? Quand vous vous sentez pas bien, il se rapproche de vous. Il est avec vous. Et rien que ça montre qu'il y a quelque chose entre nous et eux. Mais il n'y a pas que ça entre nous et eux. La colère, comme mon ancien sujet. Mais sauf avec les animaux. Les animaux, comme les humains, peuvent réagir de manière excessive. L'animal peut attaquer, l'humain aussi, mais avec la parole, si on réfléchit bien. Alors la meilleure solution, c'est de souffler. Donc, Pour finir, l'homme peut être considéré comme un animal à cause de son comportement à des moments. Bonne soirée.
Et à toutes. Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons décrire un monde où nous sommes immortels. Ce monde où la mort n'existe pas. La souffrance de voir nos proches et les membres de notre famille mourir n'existe pas. Un monde où le temps ne se compte pas. Imaginez d'avoir suffisamment de temps pour faire vos projets et vos rêves. Oui, vos projets les plus fous. Moi, je rêve de faire le tour du monde, d'être vétérinaire, policière, infirmière. Tout ça, je pourrais le faire si je suis immortelle. Car j'aurai le temps de faire toute formation pour être la meilleure dans mes professions. D'avoir chaque recoin et contempler chaque paysage de toutes les villes que je vais visiter. Le temps de passer de bons moments avec ma famille sans être pressé par le temps. Car nous sommes immortels. Regardez-vous les adultes, certains qui n'ont même pas pu voir leurs enfants participer à la qualification du stage d'éloquence. Regardez aussi ceux qui ne sont pas là car ils sont occupés par manque de temps. Être immortel, c'est avoir du temps. Et avoir du temps, c'est profiter de chaque instant. Et vous, aimeriez-vous être immortel?
Bonsoir à vous, cher public. Comme vous le savez, les contes de fées se finissent tous par la fameuse phrase: ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais pourquoi donc cette phrase? Pour ma part, après avoir longuement réfléchi et effectué des recherches, j'ai trouvé quelques raisons pour lesquelles les contes de fées se finissent par cette phrase. En fait, je pense qu'ils se terminent comme ça parce que l'auteur veut finir l'histoire avec une fin heureuse, pleine de bonheur. Mais qu'est-ce que c'est que le bonheur? Personnellement, je pense que le bonheur est une émotion positive, mais je pense aussi que le bonheur n'a pas de définition figée pour la simple raison que selon l'expérience de chaque individu, chacun a sa propre vision du bonheur. Alors, je me suis dit, que dirait un philosophe à ma place? Et voici ce que j'ai trouvé. Selon Aristote, le bonheur est une activité humaine, un bien suprême. Le bonheur ne peut pas être fourni de l'extérieur, mais qu'on doit trouver en soi-même. Cependant, qu'en serait-il d'un autre philosophe? Alors, selon Kant, le bonheur est un concept empirique. Il est particulier, bien que tout le monde le recherche en tant que but universel et vague, c'est-à-dire qu'il repose sur une idée que chacun se fait du bonheur. Vous l'avez compris, même entre eux, les philosophes ne sont pas tout à fait d'accord. Bon, ne nous éloignons pas trop du sujet. Aussi, si nous regardons bien la fin de la phrase, nous trouvons trois petits points. Cela s'appelle des points de suspension. Alors, je disais que ceci indique au lecteur que c'est à lui d'imaginer la fin de l'histoire. Me concernant, j'ai imaginé la suite du conte de Cendrillon. Je me suis dit que Cendrillon pourrait ouvrir, par exemple, une boutique de souliers ou un parc d'attractions pour les enfants. Vous voyez, nous, on peut tous imaginer des choses extraordinaires au goût qu'on veut, à condition qu'elles soient heureuses, bien sûr. Ça, c'est un point. Alors, cher public, j'espère que mon texte a été clair. Je vous dis à votre imagination. Je vous souhaite bonne chance, bon courage et bonheur.
Beurre ou confiture? Question hautement philosophique et très compliquée pour la gourmande que je suis. Comment choisir entre les délicieuses confitures faites maison par ma grand-mère ou encore les succulents gâteaux que je fais avec du bon beurre fondant? C'est impossible! Beurre ou confiture? Confiture ou beurre? Moi, j'aime les deux. Bon, partons sur le beurre. Le beurre, c'est bien le beurre. Avec, on peut faire différentes recettes. Le beurre, c'est naturel, c'est fait avec du lait. Et on nous dit consommer 2 à 3 produits laitiers par jour. C'est parfait. Mais attendez, le beurre, c'est gras. Et manger trop de gras, c'est pas bon pour la santé. Mais le beurre, ça vient des vaches. C'est bien les vaches. Mais les vaches, ça pète? Et le pet des vaches, c'est toxique? Et ça fait des trous dans la couche d'ozone? On peut tous mourir? Bon, c'est pas si bien que ça le beurre en fait. Bon, alors partons sur la confiture. La confiture, c'est bien la confiture. C'est bien, c'est bon. C'est fait avec des fruits, donc tout ça c'est naturel. Et on nous dit manger 5 fruits et légumes par jour. C'est parfait. Mais attendez, la confiture, c'est sucré? Et manger trop de sucre, c'est pas bon pour la santé? On nous dit ne pas manger trop gras, trop sucré et trop salé. Oh là 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 là. C'est pas si bon que ça non plus. Bon. Et pour une production intensive de nourriture, de confiture, pardon, il faut beaucoup, beaucoup de fruits. Et pour beaucoup de fruits, il faut beaucoup, beaucoup d'engrais. Et dans l'engrais, il y a beaucoup, beaucoup de produits chimiques. Et tout ça, c'est pas bon pour l'environnement. En fait, la confiture non plus, c'est pas si bon. Mais alors, pour choisir entre les deux, c'est bien trop dur. Beurre ou confiture? Confiture ou beurre? Si on réfléchit bien, c'est comme si on me demandait de choisir entre l'exploitation intensive des animaux et l'exploitation intensive de la nature. Mais attendez, j'ai la solution, la confiture de lait.
Thank you.
Cher public, cher jury, bonsoir à vous et bonsoir à vous. Voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu stressée. La sensibilité est souvent associée à la faiblesse. Cette faiblesse, qui nous plongerait soi-disant dans la gêne de montrer que nous nous émouvons et nous nous comportons en compassion vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Cette faiblesse, qui signifierait une fragilité prétendue, qui affaiblit la raison en faveur des sentiments empathiques. Rassurez-vous, la sensibilité en tant que source de faiblesse n'est que catégorique. Mais pourquoi ce constat est-il tellement catégorique ? Nous pouvons être tentés de penser que tant que nous nous faisons passer pour des « durs », les autres nous admirent ou nous craignent. Dans les deux cas, ceci serait plus confortable ou au moins plus rassurant que de montrer sa sensibilité. Il s'agit d'une pure aberration, comme personne n'est parfaitement dur. Nous ne vivons pas dans une jungle où la loi du plus fort l'emporte. Nous vivons dans un monde gouverné par les émotions. Ces dernières contrôlent nos actes et nos sentiments beaucoup plus que nous pouvons nous en douter. Toute tentative de censurer la sensibilité n'est que vaine. En effet, d'après Benjamin Constant, ancien membre du Conseil d'État de France, pour ceux qui ne le savaient pas, les hommes qui se font passer pour des durs sont beaucoup plus sensibles que ceux qui ont inventé la sensibilité expansive. Ils se font durs parce que leur sensibilité, étant vraie, les fait souffrir. Les émotions, les sentiments et les sensations ont été malmenés tout au long de notre histoire, à plusieurs reprises. Ce qui explique que la société actuelle nous enseigne que le ressentir nous rend moins efficaces et moins forts au moment de prendre des décisions et d'avancer dans la vie. Alors, toi là-bas, ou toi, arrête de faire les durs et montre-nous qui tu es réellement. Car sache que la sensibilité dans notre façon de nous comporter, de comprendre et de communiquer n'est pas un signe de faiblesse, mais de force.
Mesdames, Messieurs, chers jurys, bonsoir. Vous avez en face de vous 55 rides qui ont résisté à l'appel de l'acide botulique. Parfaite, mais pas refaite. Non, ce n'est pas de l'intox. Le botox a encore frappé. Et les victimes de la norme sont tombées dans le panneau. Et moi, je suis tombée dans le boulot. Je veux parler du jus, le jus de boulot, du naturel, quoi. Oui, chers auditoires, nos ancêtres élaboraient des produits naturels à partir des végétaux. Les religieux, passionnés de botanique, ont trouvé des élixirs de jouvence. Je vois l'abbé sourire. Hosanna ! Au plus haut des yeux, un sérum de jouvence. Résurrection, une lotion tonique. Sainte huile précieuse, priez pour nous pauvres botox. C'est essentiel de croire que notre corps et notre esprit sont traversés par des émotions. Nos rides en sont l'expression. Dame Nature nous offre généreusement sa potion de graisse, vidangeons notre machine avec conviction. Arrêtez les injections, arrêtez les injonctions. Le botox, c'est du plastoc, c'est du toc, ça coûte du fric. Et c'est toxique. Les aiguilles empoisonnées dans la peau bloqueront vos muscles faciaux et vous n'aurez plus de larmes pour pleurer. Vos lèvres ressembleront à une fente labiale dépourvue de commissures. Vos joues charnues seront de vieilles pommes flétries et figées par la paralysie de croire que l'idée qu'elle pourrait devenir mûre. Ne croyez pas que le bonheur, c'est de ne pas en avoir. Alors de grâce, mesdames et messieurs, la vérité, ne vous laissez pas transformer. N'ayons pas peur de vieillir, mais de s'entretenir. Ne sacrifiez pas votre porte-monnaie et votre beauté sur l'autel de l'artificialité. Rigolez pour actionner vos rides et vos ridules et les faire exister. C'est pas ridicule. Il n'y a point de masque qui puisse cacher notre âge. Il n'y a que des vitamines. Alors prenons-en de la graine. C'est ce que nous donnera, c'est ce qui nous donnera bonne mine. Merci.
Mesdames, messieurs, chers jurys, bonsoir. Vous souvenez-vous de moi ? Oui, il y a 15 jours, je suis venue vous parler de l'herbe. Non, pas le cannabis ni le cannabidiol, mais simplement savoir si l'herbe est plus verte ailleurs que chez moi. Vous m'avez tellement applaudi que cela a donné envie au jury de me revoir lui aussi, mais avec un nouveau sujet, évidemment. Écoutez bien ce nouveau sujet. Le malade imaginaire creuse-t-il le trou de la sécu ? Mais pourquoi me poser la question à moi et pas plutôt au médecin ou à la sécu ? Ils ont dû juger que cela fait partie de mon devoir de citoyenne. Il faut dire tout d'abord que Molière a écrit Le malade imaginaire. En 1673, et pendant qu'il jouait la quatrième représentation, il a fait un malaise. Oui, un malaise! Ses laquais le conduisirent en chaise à porteurs jusque chez lui, où il y meurt quelques heures plus tard. Non, Molière n'était pas un malade imaginaire. Il avait la tuberculose. Oui, la tuberculose. Mais qui donc alors est le malade imaginaire ? Vous ? Moi ? Et pourquoi l'accuser de creuser le trou de la sécu ? Car, savez-vous, vous, d'où vient le trou de la sécu ? J'ai beau chercher, je n'ai pas encore trouvé. Cependant, vous devez savoir que la sécu a été créée en 1945 sous le gouvernement du général de Gaulle. Vous vous rendez compte ? J'étais déjà née, moi ! Revenons maintenant au trou de la sécu. Vous devez savoir que le prix des médicaments est beaucoup trop élevé, que certains médecins prescrivent trop de médicaments, que certaines interventions sont inutiles. Vous devez savoir aussi que la gestion administrative est peu parcimonieuse, que la CAF est grevée par des missions qui ne lui incombent pas. Notre malade imaginaire n'arrive donc pas à s'y retrouver. Et vous savez que lorsque l'esprit ne va pas bien, le corps se matise parfois tellement que notre malade imaginaire se trouve dans l'obligation d'aller voir des spécialistes qui ont, eux aussi, beaucoup de difficultés à le soigner. Notre malade imaginaire a peur. Oui, il a peur d'être malade. Il a peur de mourir. Et c'est ainsi que, paraît-il, peu à peu se creuse le trou de la sécu. J'ai donc encore réfléchi, encore. En France, en 2021, on compte 66 700 000 habitants. Dans le Val d'Oise, 1 200 000 habitants. Trou de la sécu, je ne sais pas comment le mesurer, ni avec quel appareil. J'ai beau réfléchir, je ne sais toujours pas. Ou alors, on peut se poser une autre question. Combien faut-il de malades imaginaires pour creuser le trou de la sécu? Vous savez, vous? Moi, non, je n'ai pas encore trouvé. Mais vous savez peut-être qui est le créateur de la sécu qui a tant fait pour les Français? Oui, j'ai trouvé, moi! À force de chercher. Mais vous devez le savoir, vous aussi. Savez-vous qu'il a une rue à son nom à Persan? Oui, vous devez le savoir. La rue où se trouve l'Agora, c'est la rue de Ambroise Croizat, cet illustre homme. Il a commencé à travailler à 13 ans dans la métallurgie. Beaucoup plus tard, il a expliqué que la retraite ne doit plus être l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Bon, revenons au trou de la sécu. À force de réfléchir, j'ai pensé que nous pouvons nous poser une autre question, ou tout au moins réfléchir autrement. Alors, allons-y ensemble. Vous avez un compte en banque sur lequel vous déposez l'argent que vous gagnez en travaillant. Cela s'inscrit en positif sur votre compte. Quand vous allez faire des courses ou payer des factures, ces montants s'inscrivent en négatif sur votre compte. Mais vous faites bien attention à ce que votre compte soit positif. Donc, il n'y a pas de trou dans votre compte. Vous devez certainement comprendre où je veux en venir. Si l'État fait attention, lui aussi, le trou de la sécu n'aurait pas lieu. Car dans le secteur de la santé, l'État fixerait les recettes au-dessus du niveau des dépenses. Et hop, il n'y aurait plus de trou de la sécu. Oui, l'État doit aider en donnant des moyens de subsistance aux gens qui en ont besoin. L'État fournirait les moyens de financement et la sécurité sociale serait alors bénéficiaire. Mais en ce moment, le financement n'est pas suffisant. Les patients sont surmédicalisés. Les excès de médoc rendent encore plus malades. Et au lieu de faire des formations au personnel, faire en sorte qu'il ait le matériel adéquat, les laboratoires, eux, n'en font qu'à leur tête et font aussi tout pour accuser les patients d'être des malades imaginaires. Même si j'ai envie par moments de dire qu'on est tous un tout petit peu, malades imaginaires, je ne crois pas que vous y êtes autant que cela. Alors, bonne réflexion à tous.